mais que c'est bon! Oh, que c'est bon l'eau chaude! Ouh, que ça fait du bien! Bon, ben voilà, j'ai décidé, je suis inspiré, je vais soliloquer dans mon bain. Et donc, je vais appeler ça mes soliloques. S'appelleront les filoubains. Parce que j'aime faire référence à la philosophie et que le bain m'aide un peu à immerger mes pensées dans un flux plus continu et le bain procure une sérénité qui me permet de penser un peu plus plaisamment le monde, les idées de l'animal humain, ses légendes, ses croyances, tout ça, c'est une forme de fusion, et le bain la favorise chez moi. Donc, en route pour le filobain numéro 1. Pourquoi être nu pour philosopher? Ah, c'est en fait une évidence. La pensée nue, le corps nu. Le corps nu, oui, l'encore nu. Il y aurait beaucoup de jeux de mots un peu sataniques autour du corps nu. Mais je m'en abstiendrai, promis. Promis, mais pas juré quand même. Hein. Je trouvais que un reportage documentaire de la BBC que j'ai vu il y a un certain temps et qui date d'encore plus longtemps présentait un professeur d'histoire de l'art discutant justement de la pornographie, représentation de la nudité, représentation d'actes sexuels à travers peintures, fresques, enluminures, bas-reliefs, l'histoire occidentale. Donc ce monsieur, dont j'ai bien sûr oublié le nom, je vérifie quand même que, ouais, ça enregistre. Donc ce monsieur, voilà, faisait son exposé en posant nu pour une peintre. Donc il y avait quelques cadrages, quelques séquences où on voyait le monsieur, on voyait pas vraiment son pénis en gros plan comme dans les films porno, mais il était tout nu, quoi. Il était tout nu face à, au chevalet. Derrière le chevalet, il y avait une peintre en train de, de le peindre nu. Et donc j'ai un peu flashé sur cette idée de dialoguer avec une audience en étant nu. Alors, voilà, je vais quand même dire que j'ai été assez obsédé par la nudité, ou en tout cas rebelle par rapport aux tabous liés au corps et à la nudité, depuis un très jeune âge, hein, un âge prépubère, j'adorais seul me mettre nu dans les hautes herbes des prairies derrière chez moi. Euh, j'ai eu d'autres épisodes où, voilà, jamais à me mettre nu. Alors, j'ai jamais fréquenté vraiment le mouvement naturiste. Bien que je m'en sente proche, bon, bah, ça, c'est encore une fois un environnement familial, socioculturel, qui me semblait rejeter catégoriquement cette forme de sensualité. Donc je suis rebelle depuis un très jeune âge contre la pruderie et celle imposée par les réseaux sociaux, Meta et Alphabet, enfin Alphabet surtout YouTube, quoi, le reste on ne sait pas trop ce qu'ils pensent. Mais YouTube, voilà, sanctionne de façon assez radicale tout ce qui est un peu nu. J'ai perdu des comptes, sur Instagram. Je me souviens plus si j'en ai perdu sur Facebook, mais c'est pas improbable. Donc la nudité comprise comme quelque chose d'indécent, d'offensant, de contraire à l'abonnement à l'état des miennes, m'énerve énormément. Enfin, l'abonnement à l'état des miennes, pas la nudité. Voilà, donc j'enlève mes lunettes, puisque elles sont de toute façon pleines de buée. Et que je suis convaincu que ma caméra enregistre. Voilà, donc je peux travailler gentiment mon éclairage dans ma salle de bain et je vais pouvoir déguster voilà, du tabac parce que j'aime ça depuis un retour aux sources, quoi. J'ai été non-fumeur pendant 40 ans, ouais, enfin pendant 30 ans, disons. Et puis ça m'a repris, et je fais plein d'explorations des différentes formes de tabagisme. J'aime toujours pas les cigarettes. Mais j'ai jamais aimé, donc il me faut quelque chose qui remplisse un peu plus la bouche pour que j'aie une sensation agréable quant à la consommation de tabac. Donc la nudité est une préoccupation sociale que j'observe en tant qu'éthologue de l'animal humain. Je constate qu'elle est occidentale, fait que la réprobation de la nudité est un phénomène récent, quand même très occidental. Et bon, l'histoire de la photographie montre que dès que des images photographiques de corps dénudés ont été possibles, les artistes ou les photographes de l'époque, je ne sais pas très bien où mettre la différence, mais en tout cas, photographe, il l'était, artiste, c'est discutable, enfin, pour moi, c'était des artistes. Bien, dès que cette photographie a été disponible, il y a eu des photos de nus et il y a eu des photos d'actes sexuels, donc pornographiques au sens strict du terme. Alors si on avait envie de les faire, c'est que ça correspond quand même à une impulsion qui vient de loin. Et si on les faisait, c'est qu'il y avait aussi un public pour ça. Donc, voilà, je n'ai pas de problème à trouver des repères historiques et culturels favorisant la création artistique autour de la sexualité ou à propos de la sexualité. J'ai plus difficile à trouver des repères quant à la condamnation par la bien-pensance de ces représentations. Alors, bah, globalement, c'est évidemment lié à l'Église catholique, bon, peut-être même la chrétienté, qui considère que le corps est sale, l'esprit est propre, que la pratique de la confession, bon, très, très bien décrite par Michel Foucault dans l'histoire de la sexualité, encourager la culpabilisation de tout ce qui avait trait avec le désir sexuel. Donc pas simplement les actes réalisés, mais il fallait passer par l'expression de ses pensées impures pour être absous par les prêtres. Alors, bah, je trouverai dans Foucault le moment charnière de cette culpabilisation du désir sexuel. Voilà, toutes les époques ont été marquées par des scandales, des condamnations, des excommunications de confréries, de congrégations, qui s'étaient mises à pratiquer l'amour de son prochain d'une façon assez charnelle. Les papes de l'époque Borgia se sont pas privés non plus. Les moments charnières de la pruderie me sont encore inconnus. La constatation présente est évidemment l'espèce de castration artistique pratiquée par YouTube et Facebook, enfin Meta. Meta est encore une fois un truc avec plein de doubles standards, hein, parce que Instagram et Pinterest et Tumblr sont propriétés, enfin sont intégrés dans Meta, avec Facebook bien évidemment, et pourtant la nudité et la présentation de relations sexuelles sont traités de façon très, très, très floue. Voilà, il n'y a pas une ligne directrice vraiment commune entre ces différentes plateformes de diffusion. On demande parfois, Meta, Zuckerberg, ils sont dans la dissonance cognitive, mais alors là, totale, quoi, hein, entre ce qui se passe sur Facebook et ce qui se passe sur Tumblr, y a un monde de différence, quoi, hein, enfin, dans le sujet que j'évoque, quoi, la sexualité, bon, fait sûrement une énorme proportion de ce qui est publié par Twitter maintenant X. Ça leur convient bien, évidemment. Parce que oui, on y voit du X et du triple X aussi. Voilà, le spectre de réprobation, acceptation de la nudité et de la représentation imagée, photographique, vidéographique, des activités sexuelles humaines. Bon, il y a aussi des trucs qui traînent avec de la zoophilie, hein. Ça, c'est vrai que sur X notamment, hein. Mais bon, on va s'abstraire des déviances assez rares, telles que la zoophilie. Bon, je parlerai peut-être de la pédophilie. Mais bon, la sexualité de l'animal humain se montre avec des variations, une espèce de continuum entre le refus des grands films indiens, enfin de Bollywood, de mettre une image sur un baiser entre, enfin un baiser sur la bouche, dans leur production, jusque X présentant toutes les formes d'utilisation d'un pénis sur un corps humain, masculin, féminin, voire même transsexuel. Donc la pratique montre quand même une grande variété de normes culturelles autour de cette pornographie. Alors évidemment, la multiplication des plateformes de monétisation qui valorise, autorise la pornographie, que ce soit les grosses plateformes Chaturbate, Stripchat, ou alors des plateformes plus polyvalentes, polymorphes, telles que OnlyFans, MYM, MYM, pour, voilà. Tout ça me pousse à interroger les motivations de l'ordre social. Oui, l'ordre social est une émanation plus que une décision dans mon esprit. On ne peut pas imposer des règles auxquelles absolument personne ne croit, ben, sauf peut-être chez Facebook. Mais dans le corps social au sens large, les pratiques sociales sont les normes. Même si quelques-uns s'élèvent sur, contre la pratique, le fait qu'elle continue montre qu'il y a quand même des gens qui sont d'accord avec ce qu'ils font, quoi, hein, à moins d'être en dissonance cognitive totale, quoi, hein, de faire des choses et puis de se battre la poitrine ou se flageller parce qu'on l'a fait. Ça concerne finalement un très 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 petit nombre d'individus. Hein. Donc, ma réflexion est quand même très fort autour de ces concepts qui ont émergé dans ce qui s'appelle en français la psychologie évolutive. Moi, j'avais tendance à appeler ça du darwinisme social, au sens où ben voilà, les comportements qui sont possibles maintenant le sont parce qu'ils font partie d'un héritage génétique, comportemental. Et voilà, comme je l'explique maintes fois, tout ce qui est vivant doit satisfaire trois tests: bouffer, ne pas se faire bouffer et se reproduire. Donc l'animal humain est totalement impliqué dans ces trois tests, trois défis indispensables à la survie de l'espèce. Il faut pouvoir voilà, s'approvisionner en nourriture, il faut pouvoir se protéger des prédateurs, qu'ils soient intra ou extra spécifiques, voilà, il faut quand même se protéger. Je parle pas des capotes, hein. Surtout, il faut se reproduire, parce que voilà, s'il n'y a pas de voilà, si la reproduction de l'espèce ne se passe pas ou se passe difficilement, ben on est vite exclu de son écosystème. Voilà. Et donc, en psychologie évolutive, il y a quand même une branche que je trouve très très intéressante. C'est celle qui s'occupe des mating strategies. Alors en français, ça sonne, je ne sais pas très bien comment, parce que ça peut s'appeler stratégie reproductive, ou ça peut s'appeler stratégie de séduction, ou stratégie de recherche d'un partenaire sexuel. En anglais, ça sonne juste avec mating strategies. Donc les animaux humains, mâles et femelles, ont quand même comme mission fondamentale dans leur existence adulte que de placer leurs gènes là où ils ont le plus de chances de passer dans une génération future. C'est indispensable. Ça existe chez tout le monde. Alors bon, il y en a qui s'en dégagent de cette impulsion, tous les renonçants à la reproduction. Il y en a dans à peu près toutes les cultures, que ce soit les communautés monastiques de presque toutes les croyances. Voilà, des renonçants individuels. On peut évidemment inclure dans cette renonciation à la reproduction les homosexuels. Sauf qu'on constate que bon nombre d'homosexuels masculins cherchent à adopter, et que des homosexuels féminins trouvent toujours un donneur de sperme plus ou moins garni de chair. Bon, il y a des banques de sperme, version la plus impersonnelle. Et puis, il y a la recherche d'un casual sexe, d'un coup d'un soir, histoire d'avoir des spermatozoïdes pour son ovule. Donc là aussi, le spectre des pratiques et des narratifs autour de ces pratiques me passionnent, m'interrogent, et je ne me sens pas complètement indépendant de la culture dans laquelle ces narratifs s'expriment. Bah, on ne peut pas avoir appris à parler et être indépendant d'une culture dans laquelle on peut évoluer, faire des choix, s'orienter, s'intéresser à des éléments extra, enfin, qui soient, linguistiquement, socialement, autres, ou géographiquement surtout. Parce que les cultures ont tendance quand même à être assez localisées. Mais maintenant, évidemment, avec les réseaux sociaux et les groupes d'intérêt commun, il y a des pratiques, mais surtout virtuelles, parfois aussi charnelles, qui se développent en dehors d'un contexte social de premier ordre. Bon, alors, premier ordre, second ordre, ça mériterait beaucoup de discussions, mais voilà, ce que les gens adoptent comme vocabulaire, c'est souvent, il y a la vie réelle et puis la vie en ligne, quoi. Bon, c'est finalement un concept relativement opérationnel et qui fixe assez facilement des limites. Mais des individus ont des vies réelles à multiples facettes, également en ligne. Et là, en ligne, la multiplication des facettes est probablement encore plus prégnante avec des gens qui